Sois sauvage ou reste sage. Sois sage ou bien sauvage.
Ou bien sauvage.
Sois sauvage ou reste sage. Sois sage ou bien sauvage. Ou bien sauvage.
Et oui, toi aussi, sois sauvage et rejoins-nous pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Une association spécialisée dans l'audiovisuel, dont vous pouvez visionner les méfaits sur le web à l'adresse suivante, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Sur le site des films de la Gorgone, vous pouvez également télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée est consacrée aujourd'hui à la Hammer Film, à travers la diffusion d'extraits d'une conférence autour du film Frankenstein et le monstre de l'enfer, animé par Nicolas Stenzik, auteur de Dans les griffes de la Hammer, aux éditions Au bord de l'eau. Cette conférence a eu lieu le 15 avril, lors d'une soirée organisée par les films de la Gorgone au cinéma Les Dianes de Compiègne, une soirée soutenue par le Conseil Général de l'Oise, la Librairie des Signes et Radio Graphite. Fondé en 1935, le studio a acquis sa durable célébrité avec son prolifique cycle gothique initié à partir de 1957. À l'origine de cette success story de deux décennies, une astucieuse idée commerciale, réutiliser Dracula, Frankenstein, le loup-garou ou la momie, soit l'essentiel du bestiaire fantastique hollywoodien des années 30. À l'arrivée, une véritable réussite artistique. Ces films, le plus souvent signés Terence Fisher et interprétés par les stars maison Peter Cushing et Christopher Lee, sont d'une radicale nouveauté. L'horreur cinématographique est désormais synonyme de technicolor flamboyant. Le sang coule voluptueusement à l'écran. L'érotisme se déploie en toute conscience et les mythes se modernisent pour porter une charge virulente contre les valeurs conservatrices du moment. Pour le genre, la Hammer incarnera un nouvel âge d'or qui sécrétera de nombreux émules. En plusieurs dizaines de films, dont quelques chefs-d'œuvre absolus comme Le Cauchemar de Dracula en 1958 et La Nuit du Loup-Garou en 1961, voire Dr. Jekyll et Sister Hyde en 1971, la Hammer donne ses lettres de noblesse à la série B européenne avant de cesser la production cinématographique en 1979. L'ère du blockbuster qui s'ouvre alors à raison du petit studio mais n'en efface pas la mémoire. Lucas, Scorsese, Carpenter, Romero, Jackson, Tarantino ou Burton, pour ne citer que, ont tous revendiqué un jour, en film ou en parole, leur goût pour ce studio désormais mythique. Frankenstein et le monstre de l'enfer, Frankenstein and the Monster from Hell, est sorti en 1974. C'est le dernier film réalisé par Terence Fisher, le plus célèbre metteur en scène de la Hammer. Fisher reprend pour la cinquième et dernière fois après l'avoir inauguré en 1957 les commandes de la série hammerienne inspirée du Frankenstein de Mary Shelley. Il signe une conclusion sombre et violente qui voit le docteur Victor Frankenstein, interprété par le magistral Peter Cushing, s'opposer à sa créature campée par David Prowse, qui deviendra célèbre en interprétant Dark Vador dans la saga Star Wars.
Nous
irons voir les fous, je tiens mes promesses. Cela vous amusera, j'en suis persuadé. Certains sont plutôt drôles, mais avant toute chose, buvons ce verre.
Vous n'avez jamais peur? Eh bien, entouré perpétuellement de ces fous.
Oh, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Merde, ce que se passe?
Il y a un monstre.
Quoi?
Dans le jardin. Il détruit les tombes.
Quoi? Ma voiture est dehors, qu'on la ramène chez elle, vite! Vous et les autres,
Trouvez des armes. Armez-vous et sortez dehors pour détruire ce monstre. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller?
La clé de l'armurerie.
Hein? Ne revenez pas ici avant de l'avoir détruit. Allez.
Bah, en fait, il s'agit du seul ouvrage donc sur la Hammer en France, mais il existe beaucoup d'ouvrages en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, du coup, moi, je voulais pas faire ce qui avait été fait en Angleterre ou aux États-Unis, à savoir une histoire classique des conditions de production, des acteurs, des réalisateurs, mais plutôt proposer quelque chose qui, pour le coup, n'avait pas été fait. Donc, à savoir une histoire de la Hammer à travers le regard qu'on a porté sur elle. Qui a aimé la Hammer, qui a détesté, qui a accueilli à bras ouverts Frankenstein, Dracula, qui a été les Van Helsing qui ont grandi comme ça des crucifix contre ces monstres qui à un moment donné se sont mis à envahir les écrans. Et donc en gros, j'ai cherché à écrire une histoire française de la Hammer, et c'est tout simplement l'histoire de la naissance de la cinéphilie fantastique à travers l'éruption des films de la Hammer. Voilà, en gros l'idée du bouquin. Le bouquin se divise en deux parties, alors il y a cette histoire-là, et puis il y a des entretiens avec tous ceux qui quelque part ont été les acteurs de cette histoire, les créateurs de Midi Minuit Fantastique, qui, par exemple une revue qui est née en 1962, c'était la première revue européenne consacrée au genre, et le numéro 1 en fait était un spécial Terence Fisher, et ça a été un moment tout à fait fondamental dans l'histoire de la cinéphilie fantastique, parce que ça a été tout simplement le moment fondateur. On avait enfin un emblème, la Hammer, et une manière d'aimer ce cinéma, c'est-à-dire se focaliser sur la dimension transgressive, sur le sexe, sur le sang, sur les thématiques subversives de ces films-là, de quelle manière on pouvait mettre à mal les tabous à travers ces mythologies-là. Voilà, donc les créateurs de Midi Minuit Fantastique, Michel Caen, Jean-Claude Romer, mais également des créateurs de festivals. Je vous parlais tout à l'heure du festival du Rex créé par Alain Chlokhoff avec l'avenue de Fischer, de Cushing, de Michael Carraras, mais également de Christopher Lee quelques années plus tard. Donc il y a Alain Chlokhoff qui est interviewé dans le livre, il y a également Jean-Pierre Bouixou qui a été un des tenants de la contre-culture, il y a Norbert Moutier qui tient un vidéoclub culte à Paris qui s'appelle Ciné BD, qui est un espèce de repère tout à fait étonnant pour tous les amateurs de bis. Et donc voilà, et c'est une manière de les interroger sur leur cinéphilie Hammer, pourquoi ils ont aimé ces films, pourquoi quelque part ça représentait pour eux un idéal de cinéma, et pourquoi ça représente toujours un idéal de cinéma aujourd'hui. Et donc voilà, sur près de 500 pages, c'est toute cette histoire-là. Dans les griffes de la Hammer, ça s'appelle comme ça, en fait, dans les griffes de la Hammer, évidemment, c'est vous, c'est moi, c'est le public.
C'est la grande question en général avec les films de la Hammer, c'est quel montage on va voir quand on voit le film en salle, parce qu'il y a toutes sortes de légendes par rapport au montage de la Hammer. Ces films-là ont été faits à une époque où la censure avait tendance quand même à veiller à ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, si bien qu'on a entendu parler pendant de nombreuses années de montage japonais, c'est-à-dire le montage destiné au marché du Japon, dans lesquels il y avait des séquences gore bien pires que ce qu'on pouvait voir en Angleterre ou en France. Alors ces versions japonaises, on les a jamais vues, en fait, ici en France, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais donc il y a toutes sortes de légendes par rapport à des versions plus ou moins gore. En plus, il y a un élément qui fait que ça complique un petit peu les choses, c'est que ces films-là étaient diffusés dans ce qu'on appelait les salles de quartier dans les années 60-70, et il se trouve que il y a toutes sortes de collectionneurs ou d'amateurs d'effroi ont souvent soudoyé des projectionnistes pour pouvoir acheter des plans les plus gore des films. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de copies de films qui circulent comme ça, complètement expurgées de leurs séquences gore. J'ai vu ce film à la Cinémathèque française il y a 3-4 ans, sans aucune séquence gore. Et c'était dû tout simplement au fait voilà, d'un collectionneur, d'un projectionniste qui était connu à Paris, visiblement, qui sévissait au Brady et qui revendait toutes sortes de séquences comme ça. Alors ici, ce soir, la copie qu'on a vue, il y avait effectivement quelques séquences en moins, mais c'était absolument pas les séquences gore. Visiblement, c'était une sorte de remontage dû au distributeur français de l'époque Europrodis. Voilà, visiblement un tout petit distributeur. Et là, c'était exclusivement quelques séquences de dialogue. La première séquence manquante, c'est une séquence de procès en début de film. Au moment où le chirurgien se fait arrêter, normalement, il y a un procès qui l'envoie dans le même asile que le baron Frankenstein. Il y a un certain nombre d'autres séquences, je ne les ai plus toutes en tête, mais il me semble que
le fou avec une barbe assez longue qui parle comme un personnage biblique. Il y a une séquence normalement où on apprend qu'il se prend pour Dieu. Voilà, et alors, là, cette séquence-là, on ne l'a pas vue. Mais sinon, pour le reste, oui, c'était vraiment le film. Oui, voilà, c'était vraiment une version fidèle du film. Au sein de la Hammer, il y a eu Dracula, Prince des Ténèbres, il y a eu Les Étrangleurs de Bombay. D'ailleurs, la publicité avait mentionné en stroboscope. Voilà, c'est dur à dire. Mais sinon, en général, oui, c'était plutôt comme type de format, plutôt du 1.66. Ça, c'était vraiment le format préféré à Terence Fisher.
Commençons en bas. C'est terminé.
Ça, c'est une des grandes thématiques, en fait, chère à Fisher, c'est l'idée de la bestialité qu'on a tous en nous-mêmes et qui, à un moment donné, refait surface. Ça, c'est vraiment un aspect des choses qu'on retrouve, en fait, dans tous ces Frankenstein, même dans tous ces films fantastiques. Dès le premier Frankenstein s'est échappé. La créature incarnée par Christopher Lee, c'est vraiment un petit peu l'invention du zombie moderne, c'est-à-dire un personnage qui est mu strictement par ses pulsions. Voilà. En gros, il va se jeter sur ses victimes, il va avoir des pulsions comme ça, il va vouloir les étrangler, il va vouloir... dans le deuxième épisode, dans la revanche de Frankenstein, là, ce sont des pulsions cannibales qui apparaissent. Donc là, on a un petit peu tous les éléments qui vont nous mener à Romero, quelque part. Mais ça, c'est vraiment un aspect important. Il me semble qu'en fait, dans ce film aussi, il y a tout un jeu de miroir qui est proposé. Il y a des séquences très clairement où voilà, la créature se découvre dans un miroir, enfin, où le cerveau découvre son nouveau corps dans un miroir. Ça, c'est vraiment un élément clé des Frankenstein de Terence Fisher. Mais au-delà de cette seule séquence, il y a vraiment toutes sortes de jeux de miroir entre les différents personnages. Le jeune chirurgien, c'est ni plus ni moins que le baron Frankenstein 30 ans auparavant. Le personnage de l'ange, quelque part, c'est la conscience du baron Frankenstein qui, à un moment donné, a décidé de se taire devant l'horreur de ses expériences. Voilà, c'est un aspect très, très, très important. Autre élément, bah voilà, la créature, c'est la bestialité du baron Frankenstein qui est tapis comme ça au plus profond de son être, mais qui à un moment donné s'exprime. C'est évidemment, ce sont les différentes facettes d'un même personnage, voilà, tout simplement. Tout à l'heure, je parlais de films testamentaires. Quelque part, il y a une vraie évolution dans le cinéma de Terence Fisher entre Frankenstein s'est échappé en 57 jusqu'à Frankenstein et le monstre de l'enfer en 73. Et effectivement, c'est un parcours qui le voit petit à petit renoncer à tout romantisme, à tout effet baroque, à tout effet tout simplement. Et là, on est vraiment dans un espèce de travail d'épure totale qui nous mène à ce film d'une totale austérité, d'une totale noirceur, hein, ce qui n'exclut pas évidemment l'humour noir en l'occurrence qui est présent dans le film. Ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs avait vraiment frappé la critique de l'époque. Autant Terence Fisher, c'est un cinéaste qui a été totalement rejeté au moment de ses premiers films fantastiques à la fin des années 50. Télérama à l'époque a hurlé en écrivant par exemple par rapport au cauchemar de Dracula. Ce film-là va créer des générations de détraqués, de pervers. Bon, voilà, on pouvait lire ce genre de propos extrêmement violents dans la presse de l'époque. Et puis d'ailleurs, c'était quelque chose, un point de vue extrêmement partagé, hein, c'était vraiment un point de vue dominant. Mais 10 ans plus tard, à la fin des années 60, une revue comme les Cahiers du cinéma, qui jusque-là ne s'était absolument pas intéressée au cas de la Hammer, absolument pas au cas de Terence Fisher, a fini par découvrir, sous la plume des critiques les plus éminents et les plus importants de l'époque, qu'effectivement Terence Fisher était un grand auteur moderne. Alors ça avait valeur de sacre suprême à l'époque chez les Cahiers du cinéma. Et en gros, leur raisonnement était le suivant. Fisher, c'est l'un des derniers cinéastes classiques, l'un des derniers cinéastes qui est hérité d'une conception du cinéma née en gros avec Murnau, avec Fritz Lang, avec Alfred Hitchcock, et qui arrive à faire continuer de vivre cette forme de classicisme à une époque où pourtant, normalement, le classicisme est complètement passé de n'est plus d'époque. Voilà, il y a eu la nouvelle vague entre temps, il y a eu une nouvelle vague européenne, il y a eu, voilà, le cinéma a changé. Et bien néanmoins, Fisher continue de faire vivre cette forme classique du cinéma parce qu'il procède à son épure. Et ce qu'on met en avant finalement dans son parcours, c'est une modernité de type bressonienne. Alors ça peut paraître fou quand on dit les choses de cette manière-là, mais néanmoins, ça a été marqué noir sur blanc dans les cahiers du cinéma à l'époque. Et c'était Serge Danet, Jean-André Fieschi, c'est-à-dire...
Jean-Pierre Houdard, je me souviens de Jean-Pierre
Houdard. Oui, Jean-Pierre Houdard, voilà. En gros, ceux qui ont défendu le cinéma moderne le plus obtus dans les années qui ont suivi. Et alors effectivement, ce travail d'épure, c'est quelque chose qui frappe vraiment dans ce film-ci. On a l'impression qu'il renonce de fait à tout effet, et tout est construit comme une lente montée très progressive. Je pense qu'il y a un dialogue à un moment donné qui est très important, qui n'est absolument pas anodin, et qui livre finalement et la clé esthétique du film, et en même temps la clé du parcours Terence Fisher. À un moment donné, le professeur Durandel, en montrant du doigt les équations qui sont inscrites sur les murs de sa geôle, dit finalement ça, c'est peut-être encore plus beau que la musique. Manière de dire que, poussées dans leur retranchement, les mathématiques finalement débouchent nécessairement sur la poésie. Bien, quelque part, le travail dans le découpage, le travail dans le montage de ces films, Terence Fisher propose un cinéma qui est complètement obsédé par cette idée des mathématiques qui débouchent sur la poésie. Par exemple, dans Dracula, Prince des Ténèbres, il y a quelque chose d'extrêmement frappant, c'est que Dracula meurt au tout début du film, on reprend les images du cauchemar, le célèbre final du cauchemar de Dracula. Au bout de trois quarts d'heure précisément, il renaît de ses cendres et apparaît comme ça à l'écran, il s'incarne, c'est le prince des ténèbres qui voilà, s'incarne. Et au bout de 90 minutes précisément, il meurt à nouveau. Une manière de construire une espèce d'esthétique du cycle, à la fois, voilà, vie, mort, etc. Et en même temps, l'esthétique de la symétrie, voilà, on est complètement dans des obsessions géométriques et mathématiques. Et Frankenstein et le monstre de l'enfer, de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose. C'est une lente montée progressive qui aboutit, comme ça, à cette espèce de finale inéluctable, c'est-à-dire la catastrophe et voilà, le monstre dépecé par la foule des aliénés. L'aspect sur le sang est extrêmement important, effectivement, dans ce film. Au cours d'une interview au début des années 60 avec Bertrand Tavernier, Fisher avait déclaré qu'il considérait que l'horreur dans ses films devait nécessairement toujours reposer sur un fondement philosophique et moral. En gros, ce qu'il propose à travers son usage du sang, c'est une esthétique, c'est une manière de figurer des questionnements d'ordre métaphysique. Voilà. Si on prend Dracula, le sang dans les Dracula de Fisher s'érotise et en gros renvoie à l'idée de pulsion essentiellement sexuelle. Avec les Dracula de Terence Fisher, en gros Dracula renonce au romantisme qui était celui par exemple de Bela Lugosi dans les années 30. Bela Lugosi, son Dracula, il regrette son humanité perdue. Eh bien, le Dracula de Terence Fisher, pas du tout. Lui, au contraire, il vit sa condition de non-mort plutôt comme un cycle ininterrompu de jouissance, bien plus que comme une malédiction. On est vraiment là-dedans. Et le sang permet de figurer tout ça. Voilà, c'est la pulsion sexuelle qui s'exprime d'un coup, plein cadre, comme la célèbre apparition comme ça du comte Dracula, avec les canines proéminentes, le sang qui coule sur ses lèvres. Dans le mythe de Frankenstein, c'est un petit peu la même chose, sauf que le sang, ce coup-ci, renvoie plutôt à l'idée d'âme, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire l'idée d'identité. C'est sur cette notion, finalement, que le baron Frankenstein, c'est sur cette notion qu'il bute systématiquement. Le baron Frankenstein, c'est un scientiste radical qui est persuadé que la chair est dépourvue de valeur sans ses géniales opérations. C'est pour ça que le cerveau que vous avez vu à un moment qui tombe à terre, c'est un cerveau dont il ne va plus se servir. Eh bien, voilà, il peut shooter dedans comme dans un ballon de football, il n'y a pas de problème, ça n'a plus aucune importance. Eh bien, c'est pour ça que Fischer filme cet aspect-là des choses. Et en gros, l'échec du baron Frankenstein vient toujours de cette croyance selon laquelle donc, la chair est dénuée de valeur. Et ce qui fait que finalement, ces créatures sont toujours dépourvues d'identité. C'est parce qu'elles sont dépourvues d'identité en tant que telles que, voilà, qu'il s'agit réellement de monstres. C'est tout le processus de cette créature avec ce corps qui finit par... non pas rejeter le cerveau, mais par le contrôler, quelque part. Et c'est, en gros, ce qu'on retrouve dans tous les autres Frankenstein de Terence Fisher. C'est vraiment une approche matérialiste du mythe, et presque, on pourrait dire, athée. Il y a un film qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est le deuxième film du cycle, c'est La Revanche de Frankenstein. Dans La Revanche de Frankenstein, en théorie, le baron était condamné à mort dans l'épisode précédent. Condamné à la guillotine. Au tout début de La Revanche de Frankenstein, on l'amène à la guillotine, sauf qu'à la dernière minute, ce n'est pas lui qui se fait guillotiner, mais le prêtre qui était chargé de le confesser avant de le mettre à mort. Ce qui fait que le film démarre par la mort de Dieu, voilà, ni plus ni moins. Et à la fin du film, Frankenstein a créé un corps à sa propre image, voilà, il a créé une espèce de clone, et son assistant va greffer son propre cerveau dans ce nouveau corps, ce qui fait que Frankenstein crée Frankenstein, on n'a plus besoin de Dieu, la boucle est bouclée, voilà, l'homme crée l'homme. On est complètement dans une vision matérialiste et athée du mythe. Dans Frankenstein et le monstre de l'enfer, je pense qu'il y a un aspect intéressant qui concerne le titre, le monstre de l'enfer. A priori, voilà, on est dans une espèce d'imagerie toujours liée à la croyance, à la religion, le Dieu, le diable, l'enfer, le paradis. Et pourtant, là aussi, on est toujours dans une conception matérialiste et athée. Finalement, l'enfer de Frankenstein, ça n'est pas non pas le diable, mais c'est finalement son obsession. Finalement, c'est en ce sens-là où le film est vraiment une conclusion à ce cycle. C'est qu'en gros, toute sa vie, il a été obsédé par cette idée de créer un homme, et par sa propre obsession, il a créé son propre enfer. Et de ce point de vue-là, les séquences où on découvre sa chambre qui est sordide, avec ce lit comme ça dans un coin, dans un recoin de cette pièce extrêmement sombre, avec cette espèce de petit rideau, il y a quelque chose d'éminemment pathétique. Finalement, c'est un personnage extrêmement triste, il est passé à côté de sa vie. C'est ce qu'on peut ressentir d'ailleurs par moment. Il y a un moment donné où on le sent extrêmement angoissé à l'idée d'un nouvel échec. Il y a l'idée qu'il ait fait tout ça, tout au long de ses années, pour rien. Ben voilà, Frankenstein est le monstre de l'enfer. Le monstre de l'enfer, finalement, son enfer, c'est sa propre obsession. Et c'est ce qui le mène, effectivement, dans un asile d'aliénés. Le traitement du mythe par Terence Fisher était intéressant aussi par rapport au film des années 30, en ce sens où, dans les films des années 30, finalement, le baron Frankenstein, c'était une sorte de savant fou, quelque part, et qui en même temps, sitôt sa créature faite, regrettait son geste blasphématoire. Eh bien ici, le baron Frankenstein, dans le cycle de Fisher, n'est absolument pas fou et ne regrette absolument pas la dimension blasphématoire de ses opérations. Dieu, il s'en contrefiche, ça n'est absolument pas son problème. Sauf que, de film en film, voilà, le personnage évolue. Dans le premier film, voilà, c'est une espèce de génie amoral, presque une espèce de surhomme nietzschéen qui n'hésite pas à assassiner. Dans le deuxième film, La Revanche de Frankenstein, Fisher le réhabilite. Dans le troisième film, Frankenstein créa la femme, on nous le dépeint sous le visage d'un savant plutôt positiviste et bienveillant, qui, rattrapé par ses démons, dans le quatrième film, Le Retour de Frankenstein, devient une espèce de héros luciférien en révolte contre le monde. Et là, finalement, dans ce dernier opus, bah, il passe littéralement de l'autre côté du miroir. Il est littéralement vampirisé par sa propre obsession, et quelque part, même s'il prend le contrôle de cet hôpital, il a peut-être enfin trouvé sa place parmi les fous. Et de ce point de vue-là, La séquence finale, moi je la trouvais absolument extraordinaire, parce que quelle plus belle conclusion à tout ce cycle que de dire « et la prochaine fois, et le prochain monstre », c'est-à-dire la répétition du geste. Finalement, il conclut son film sur une espèce de formidable « et caetera ». Voilà, trois petits points. Finalement, le cycle Frankenstein, c'est toujours quelque chose qui redémarre. On est dans la permanence des mythes. C'est pour cette raison que Dracula renaît toujours de ses cendres. C'est pour cette raison que Baron Frankenstein ne meurt jamais. Il va toujours recréer un nouveau monstre. Voilà. C'est pour cette raison-là, de mon point de vue, c'est vraiment un film très beau et très émouvant, en fait. Il y avait un vrai intérêt pour la folie dans ces derniers films. Il y a déjà des séquences dans un asile, dans le retour de Frankenstein. Et puis alors là, effectivement, on passe tout le film dans un asile d'aliénés. Mais je crois qu'en fait, Terence Fisher, c'est quelqu'un qui était obsédé par la question du double, par l'idée de la dualité. On retrouve ça dès ses premiers films gothiques, même d'ailleurs dans ses films noirs, en fait. C'est présent dans toute sa filmographie. La figure du double, on l'a avec donc Dracula, l'aristocrate qui devient une bête fauve comme ça en une fraction de seconde. On retrouve cette idée-là dans les deux visages du Dr Jekyll. On retrouve ça dans La Nuit du Loup-Garou avec ce personnage qui se transforme. Et finalement, l'aboutissement de cette question du double, c'est bel et bien l'idée de la folie, voilà, et d'une dualité qui ne peut pas se résoudre.
Venez chez moi. Aidez-moi, vous. Nous avons beaucoup à faire. J'ai beaucoup réfléchi, mon jeune ami. Nous mettons trop de confiance dans la chirurgie et pas assez dans la biochimie, croyez-moi. Reinhauser va être très intéressant sur ce point. Oui, c'est écrit. Vous pourrez étudier ça.
Votre créature est morte, détruite.
Oh, ça n'a aucune importance, c'est sans doute beaucoup mieux comme ça. Il ne servait à rien, ni à nous, ni à lui-même. Mais une autre fois.
Une autre fois?
Mais bien sûr. Nous en discuterons en détail plus tard. Pour l'instant, nous allons nettoyer le laboratoire pour recommencer dans de bonnes conditions. Bien sûr, nous aurons beaucoup de nouveaux matériels.
Monsieur Adler au 106, peut-être pourrait-il.
Non? Oh, ce n'est pas très important, nous avons le temps d'en décider. Tout notre temps.
En fait, la Hammer n'avait plus beaucoup d'argent à ce moment-là, au moment où ils ont fait le film. C'est vraiment fait avec un tout petit budget. Voilà. Il y a eu des maquettes beaucoup plus belles dans les films précédents de la Hammer. Là, on est vraiment... quelque chose fait avec des bouts de ficelle, mais au-delà de ça, il y a un aspect des choses qu'on n'a pas abordé, c'est un acteur qui est dans ce film, qui a été connu pour un autre rôle, c'est Dave Prose. Alors Dave Prose, c'est lui qui joue le rôle de la créature qui est dans ce costume, mais il est plus célèbre en fait pour son interprétation de Dark Vador dans Star Wars, où il retrouve également Peter Cushing. Et ça, c'est un aspect des choses qui me semble intéressant, parce qu'on est vraiment à un passage de témoin entre deux générations de cinéastes, finalement. Voilà. C'est la fin de la Hammer, et quelque part, c'est la fin d'un certain cinéma bis. Ce sera bientôt l'ère du blockbuster, et de ce point de vue-là, Star Wars, en 77, lance symboliquement, et plus que symboliquement, d'ailleurs, de manière tout à fait réelle, le mouvement. Et le fait est que Cushing et Dave Prose retrouvent finalement des rôles qui ne sont pas si éloignés que leur rôle au sein de la Hammer. Quelque part, Dark Vador, c'est une créature frankensteinienne, et le personnage incarné par Cushing dans le premier Star Wars, c'est-à-dire le grand Moff Tarkin, celui qui contrôle l'étoile de la mort, il a quelque chose également de frankensteinien. On sent qu'il contrôle Dark Vador, c'est l'un des rares personnages à pouvoir lui donner des ordres, et on a une relation un petit peu du même ordre. De ce point de vue-là, il y a vraiment une espèce de passage de témoin dans l'histoire du cinéma. Pour l'aspect des choses, je reviens sur le côté désuet ou non du film. C'est vrai que quand il est sorti, c'est un film qui est sorti un petit peu tardivement. Je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment la fin des haricots pour la Hammer. Le cinéma fantastique avait changé, et quelque part, c'est un film que plus grand monde n'attendait. Fisher, son film précédent datait de 69, c'était Le Retour de Frankenstein. Ça, c'était peut-être vraiment l'apothéose, c'est peut-être un de ses meilleurs films. Il y a vraiment une espèce de perfection dans la mise en scène, dans la maîtrise et de son cadre et de son histoire et de ses personnages. C'est vraiment, là, c'est un vrai chef-d'œuvre absolu.
Et puis il a eu des problèmes de santé, il s'est cassé la jambe une fois, il se l'est cassé une deuxième fois, et ce qui fait qu'il a, il a été un peu écarté des plateaux de la Hammer, et il revient donc fin 72 pour tourner ce film, et quelque part, le genre est désormais désuet, ce qui fait que ce film, personne ne l'attendait vraiment, et ce qui fait qu'il n'a d'ailleurs pas eu vraiment de succès. Hein, je vous disais, il est sorti vraiment en France très tardivement en 76. En revanche, il y a eu une avant-première mondiale de ce film qui a eu lieu à Paris, qui là, pour le coup, a fait date. Ça s'est passé dans le festival du film fantastique organisé à l'époque par Alain Chlokhoff, qui est devenu le festival du Rex quelques années plus tard. Cette édition-là, en 73, a eu lieu au Palace, à Paris, et pour l'occasion a été invité Terence Fisher, Peter Cushing et le propriétaire de la Hammer, Michael Carreras. Et là, ça a été vraiment un moment extraordinaire quand le film a été diffusé. La première apparition de Peter Cushing au début du film avec ce zoom extraordinaire sur lui, à ce moment-là, il y a eu une espèce de mouvement de folie dans la salle, tout le monde s'est mis à applaudir, ça a été vraiment une espèce de moment comme au théâtre quelque part. Et en fait, ça a été la rencontre entre une nouvelle génération de cinéphiles, en gros ceux qui avaient 15-20 ans dans les années 70, qui s'est saisi en gros de la Hammer à ce moment-là, comme d'une espèce d'anthologie classique et qui en a fait un petit peu son emblème, de la même manière que la génération précédente de cinéphiles fantastiques dans les années 60, avec des revues comme Midi Minuit Fantastique par exemple, s'était déjà saisi de la Hammer comme d'un emblème. Il y a eu vraiment là aussi un passage de témoin, alors non pas entre cinéastes, mais entre générations cinéphiles, qui s'est passé avec la Hammer, en présence de Terence Fisher qui a été littéralement acclamé, et avec ce film-ci, Frankenstein et le monstre de l'enfer. Voilà. Il n'y a jamais de clin d'œil aux dépens du film. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais dans les films de Terence Fisher. En revanche, je pense que de son point de vue, c'était tout simplement un Frankenstein de plus. Il en avait déjà fait 4 avant. Il sait qu'il a fait un coup de maître avec le retour de Frankenstein, de toute évidence. Et il sait, parce qu'il commençait à être malade sur le tournage de ce film, il est mort d'un cancer quelques années plus tard, Terence Fisher, mais il était déjà très, très atteint, puis il a eu ses accidents, ses jambes cassées, etc. Et donc du coup, il sait qu'il y a peu de chances pour qu'il fasse un autre film, d'où ce côté vraiment conclusion. Alors, c'est aussi une conclusion, parce qu'il y a plein de références à ces films passés. Par exemple, le personnage de la muette renvoie au personnage d'Yvonne Romain dans La nuit du loup-garou. Il y a un personnage de muette comme ça. Il y a d'autres références. Par exemple, il y a une espèce de folle dans une geôle qui parle un peu comme Freda Jackson dans Les Maîtresses de Dracula, qui était une espèce de sage-femme diabolique.
L'assistant, il y a quelque chose de David Peel aussi.
Oui, voilà, il y a l'assistant, Simon Elder, ressemble à David Peel des Maîtresses de Dracula. C'est le personnage de l'assistant juvénile. C'était déjà celui... on retrouvait déjà un peu ce personnage dans Le Retour de Frankenstein. L'idée de l'asile dans lequel on va pouvoir prélever comme ça sur les patients un certain nombre d'organes ou d'éléments comme ça du corps, bah, c'était l'idée de La Revanche de Frankenstein. Bref, c'est une espèce de film patchwork de ce point de vue-là, donc un film éminemment frankensteinien par définition. Qui renvoyait donc à tous ces films précédents, même la manière par exemple dont il filme la créature qui à la fin du film va casser la fenêtre et franchir comme ça rentrer dans le bureau du directeur, là ça renvoie à la malédiction des pharaons avec la momie qui de la même manière va rentrer dans une pièce en cassant la fenêtre de la même manière. Donc de ce point de vue là je pense pas qu'il y ait d'ironie sur le film, il a pas un regard ironique sur son propre film en disant voilà, il y a moins de moyens et je vais en rigoler. Non, il le fait avec le plus grand sérieux néanmoins. De ce point de vue-là, je pense que c'est plus un film qui tire vers l'humour noir qu'autre chose. De ce point de vue-là, il y a vraiment une évolution très différente de Fisher par rapport aux autres cinéastes de la Hammer. Fisher a réussi à faire un film moderne parce qu'il était dans une espèce d'épure radicale, là où les autres sont beaucoup plus allés vers des effets dits modernistes, mais en fait des effets de mode, qui aujourd'hui sont d'ailleurs un peu plus démodés. Voilà. Franju disait que le film qui l'avait le plus impressionné, le plus horrifié, était un documentaire chirurgical. Il revenait souvent dans ses interviews là-dessus, et c'est vrai que les séquences choc des yeux sans visage sont des séquences absolument fascinantes, et extrêmement effrayante parce qu'elle relève d'une esthétique du documentaire. Voilà, il y a quelque chose d'implacable
dans ces images-là. Et on retrouve pleinement ça chez Terence Fisher dans son cycle Frankenstein. De la même manière, Pierre Brasseur, son personnage dans Les yeux sans visage, ça n'est absolument pas un savant fou. Voilà, c'est au contraire un scientifique qui est en avance sur son temps. Voilà. Et voilà des points communs, évidemment, entre Fisher et Franju. De la même manière, au-delà des personnalités des uns et des autres, il me semble que la caractéristique des yeux sans visage, c'est aussi son année de production, 1960. Ça, c'est une année clé. Parce qu'en gros, la Hammer est là depuis 1957 à renouveler le cinéma fantastique en dépoussiérant les vieux mythes gothiques. Et puis, en 1960, eh bien, en Italie, on a Mario Bava qui va faire Le Masque du Démon et qui va ouvrir la voie à tout un cinéma gothique transalpin. Aux États-Unis, on a Roger Corman qui va faire La Chute de la Maison Usher, et ça va ouvrir la voie donc à son cycle Edgar Allan Poe et à tout un cinéma gothique américain. En Espagne, on aura bientôt Jess Franco. Enfin bref, il y a tout un vaste mouvement. Et en France, donc en 1960, on a Franju qui fait Les yeux sans visage. Sauf que là, il y a quand même une petite différence, c'est qu'en France, on n'a pas la culture du genre. On s'intéresse davantage aux auteurs qu'au genre, ce qui fait que les films fantastiques français sont toujours conçus comme des prototypes. Ce qui fait que Les yeux sans visage, voilà, ça a beau être un succès public, ça a beau être un succès critique, parce que de toute évidence, c'est l'un des plus beaux films d'épouvante, toute catégorie confondue qui a été fait. Et bien néanmoins, aucun producteur le lendemain va avoir l'idée d'exploiter le filon et de faire de nouveaux films d'épouvante. Ce qui fait que Franju va devoir attendre 2 ou 3 années avant de faire un autre film fantastique. Là, ce sera Judex en 1963. Mais c'est vrai que oui, il y a des points communs entre Fisher et Franju, même si après, l'univers de Franju relève aussi d'un fantastique typiquement français avec d'autres références, Feuillade, avec la littérature populaire, avec une manière de vouloir faire, d'exprimer le fantastique en faisant affleurer l'insolite dans le réel. C'est vraiment ça, Franju. Mais on retrouve quelque part un petit peu cette démarche, c'est vrai, chez Fisher, dans le côté extrêmement réaliste, extrêmement naturaliste de ses films. Frankenstein et le monstre de l'enfer, de ce point de vue-là, c'est vraiment, oui, un film totalement naturaliste. Et le plus fantastique naît de cet aspect-là des choses, je crois.
Il m'a tué l'ange!
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec l'association Les Films de la Gorgone, une association spécialisée dans l'audiovisuel. Toutes les réponses à vos questions sont sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée était une émission préparée par votre serviteur, assistée pour la programmation musicale d'Alexis di Admiraldi. Une émission animée par Nicolas Stenzik, dit le Hammerman, Jérôme, dit la Gorgone, and the last but not the least, Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!